Mais pour l'instant, nous allons aller dans l'espace. Nous allons aller dans l'espace. Quatre touristes spatiaux, des touristes spatiaux américains, se sont envolés cette semaine à bord d'un vaisseau de SpaceX, sans astronautes professionnels. Alors, ils ont passé 3 jours en apesanteur et en principe, je crois qu'ils reviennent sur Terre aujourd'hui. Claude Lafleur, journaliste scientifique et qui est l'auteur aussi, co-auteur d'un blog très intéressant sur tout ce qui touche à l'espace, est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour Paul.
À quelle heure reviennent les touristes de l'espace?
C'est intéressant, hein? Il était prévu à l'origine qu'ils reviendraient à 7 heures ce soir, mais finalement, c'était devancé à 1 heure cet après-midi. À
13 ah oui,
heures.
Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ils sont tannés?
Je ne sais pas, hein, parce qu'on a beaucoup moins d'informations sur cette mission-là que les missions de la NASA, parce qu'on n'a pas les transmissions en direct. Ça, c'est gardé secret entre SpaceX et la capsule. Moi, mon hypothèse, c'est que s'il était revenu à 7 heures ce soir, le soleil se couche peu après et récupérer un équipage en fin de journée ou en début de soirée, c'est peut-être un peu plus risqué. Mais c'est curieux qu'il n'y ait pas pensé avant, là. Mais alors que quand ils atterrissent à midi, à 1 heure cet après-midi, ben là, il fait clair, ils vont atterrir au large de Cap Canaveral. Donc là, ils ont tout le temps de les récupérer.
Alors, qui compose ces quatre touristes de l'espace? Parce qu'ils ont même un nom de mission, Inspiration 4.
C'est ça. Ben, la mission est payée par un milliardaire, hein, Jared Isaacman, qui a littéralement acheté un voyage à SpaceX. Hein. Je veux dire, lui, il a pas acheté une place à bord, il a acheté tout le vaisseau, tout le voyage. On imagine qu'il a payé à peu près 200 millions de dollars, parce qu'encore là, ça n'a pas été divulgué. Tu sais, on a affaire à une mission privée, hein, fait qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Et lui, il a décidé d'inviter 3 personnes à bord. En fait, c'est un drôle de processus. Lui, il fait, en même temps que sa mission, il fait une levée de fonds pour l'hôpital Saint-Jude au Tennessee, un hôpital pour enfants qui fait de la recherche sur, entre autres, les enfants qui ont le cancer. Donc, il fait une levée de fonds et il a amené une des assistantes médicales de l'hôpital, donc un employé de l'hôpital qui est à bord de la mission. Il a, comme il fait une levée de fonds, il a demandé aux gens donc de contribuer. Il a choisi une de ces personnes-là, plus ou moins au hasard, nous dit-on. Donc, il y a quelqu'un qui a participé à la levée de fonds. Puis, il a finalement amené une professeure, une enseignante en sciences, qui a quasiment les qualifications pour devenir astronaute. Elle s'était présentée à la NASA lors d'une sélection de la NASA. Elle s'était ramassée dans les 50 finalistes pour finalement ne pas avoir été. Donc, c'est 3 personnes différentes qui ont été choisies pour participer à cette mission-là. Et non pas, Jared n'a pas amené ses petits amis, mettons.
Non, peut-être, mais c'est donc 4 passagers. Il n'y a pas d'astronaute professionnel, de profession, si vous voulez, à bord.
C'est un peu pas là, comme si vous et moi, on se louait un Boeing ou un Airbus, puis qu'on amenait nos amis à bord, mais il n'y avait aucun pilote professionnel à bord. Tout se fait de façon automatique. Là. SpaceX contrôle la capsule et en principe, ils n'ont rien à faire. Maintenant, Jared Isaacman a quand même appris comme il faut le pilotage de la capsule. Si jamais il y avait un problème, il pourrait théoriquement prendre des commandes. Mais effectivement, c'est la première mission où il n'y a aucun astronaute professionnel à bord. Je dirais aussi un petit détail qu'on ne souligne pas souvent. C'est la première mission qui n'est pas réalisée par un gouvernement quelconque. C'est pas sous l'égide de la NASA, c'est pas sous l'égide de Roscosmos ou de l'Agence spatiale chinoise. C'est vraiment une entreprise privée. Ça, c'est la première fois que ça se fait. C'est une entreprise privée. SpaceX qui mène de A à Z la mission sans aucune participation d'une agence spatiale. C'est ça la première.
Ben oui, c'est ça la première. Alors, ça risque...
En même temps, c'est dangereux.
ben justement, à quel point j'allais vous poser la question? Est-ce qu'on a une certaine anxiété avant l'amérissage?
Bien, c'est toujours dangereux. D'abord, au décollage, là, quand vous allumez le moteur d'une fusée, vous déclenchez littéralement une explosion. C'est exactement ce qui se passe. Explosion dont vous devez garder le contrôle le temps de vous rendre en orbite terrestre. Et donc, ça s'est bien passé mercredi soir. Merci. Là, le retour sur Terre, c'est aussi une opération risquée qui va se faire évidemment de façon automatique parce que le vaisseau pourrait être détruit. On se souvient de Columbia, la navette spatiale.
Ben oui.
En 2003,
ça avait été épouvantable à la rentrée. Les Soviétiques, à l'époque, ont eu également.
Les Soyouz aussi, exactement. Ouais. C'est pour ça que ça demeure toujours une opération critique. D'ailleurs, c'est intéressant. À un moment donné, on posait la question, un journaliste a posé la question à un des astronautes de la NASA qui a passé 6 mois à bord de la station spatiale. Il a demandé: pensez-vous qu'un jour, il va arriver un accident et des vols touristiques? Et lui, il a dit, je ne dirais pas si un jour il arrive un accident, je veux dire lorsqu'un jour il va y arriver un accident.
Ben oui.
Il va y avoir un accident avec la New Shepard de Bezos ou le Spaceship Two de Branson ou la capsule Crew Dragon. À un moment donné, un autre, là, que c'est dangereux aller dans l'espace. Hein. C'est risqué. C'est pas pour rien que ceux qui vont, on considère souvent que c'est des héros. Hein. David Saint-Jacques, là, c'est pas n'importe qui. Là, et Chris Hadfield, Marc Garneau et compagnie, pour nommer ceux que les gens connaissent bien. C'est des gens qui ont pris des risques. Ce sont des gens qui se sont très, très bien préparés pour ça. Là, on envoie des amateurs dans l'espace. Un jour, il va arriver un accident. Je ne le souhaite pas. Hein. Je ne le souhaite vraiment pas, mais c'est presque inévitable.
Moi, j'ai une question à savoir. Quand il y a des touristes comme ça qui vont dans l'espace, est-ce qu'il y a une préparation spéciale ou on les envoie comme ça sans préparation dans l'espace?
Très bonne question. Bien, il y a une préparation minimale. En fait, quand on pense aux astronautes professionnels, hein, ils s'entraînent pendant des années, là. Ils s'entraînent pendant 5, 6, 7 ans avant d'aller dans l'espace. Dans le cas de la mission actuelle, ils se sont entraînés pendant à peu près 6 mois. Entraînés pour former un équipage et entraînés à apprendre le béaba de l'exploration du voyage dans l'espace. Ils ont fait, entre autres, des vols en avion parabolique pour simuler la pesanteur pendant quelques secondes. Il y a une certaine préparation. Jared, il a appris à piloter la capsule. Il y a une préparation minimale. Mais moi, je comparais ça, là, quand on s'en demandait, est-ce que ce sont des astronautes, oui ou non? C'est comme si vous avez des médecins hein, en bas des diplômes qui ont fait des études universitaires, puis il y a des gens qui suivent des camps de premiers soins ou de premiers secours. Ben ça ne fait pas des médecins pour autant.
Non.
Des gens qui ont des bases médicales, là, mais ça n'en fait pas des médecins. Ben là, on n'envoie pas de médecins dans l'espace. On envoie des gens qui ont suivi un camp d'été sur les premiers soins, mettons.
On va regarder donc le retour sur Terre. Puis j'en profite pour dire que dans votre dernière édition, je l'appelle votre blog, votre journal.
C'est un balado, hein, Paul. C'est un balado.
Un balado, si on veut. Regardez, il est en train de me faire sentir vieux parce que je n'ai pas utilisé le terme balado.
Alors que là... Paul, là, votre sujet à matin, il est très mauvais. Moi, j'aime pas ça me faire dire que je suis sur mon X.
Ben non, je le sais. Ben non, mais c'est ça l'instant X. Là, j'ai appelé ça le blog. Non, c'est un balado. Bon,
balado, Paul.
Très sérieusement, Claude Lafleur, dernière édition, très intéressante, où vous tentez de répondre à la question, est-ce que oui ou non, on a déjà eu des preuves et des preuves concrètes et que des gens sont en possession d'informations hors de tout doute que des extraterrestres nous ont visités. C'est un peu ça? C'est un peu ça votre,
ben,
c'est-à-dire votre balado?
Que le sujet précis, c'est que parfois les médias nous annoncent là, qu'on a capté des signaux
voilà.
en provenance de l'espace.
Voilà.
Des signaux là, qui peuvent pas être d'origine naturelle, donc c'est probablement des civilisations extraterrestres. Et ces signaux-là, on capte des signaux qui nous surprennent un peu. Beaucoup plus tard, on découvre que c'est un phénomène purement naturel, mais les médias n'en parlent pas. Fait qu'autrement dit, on apprend un matin qu'on a capté un signal d'origine possiblement extraterrestre, d'origine intelligente, et 6 mois, 1 an plus tard, on va dire non, c'était le phénomène astronomique, mais ça, les médias ne le rapportent pas.
Alors,
fait qu'explique un peu le phénomène.
Expliquez-nous comment on peut aller écouter vos balados, toujours très intéressants.
Tout simplement, Paul, dans Google, là, tapez « balado voyage dans l'espace » et vous allez arriver, et c'est gratuit, hein, les gens vont... Il y a des épisodes sur la planète Mars, sur la Lune, sur tous les sujets qu'on peut...
Ah non, c'est excellent.
C'est le balado voyage dans l'espace.
Voyage dans l'espace.
Ouais. Et c'est gratuit.
Exactement. Et Claude, est-ce que tu as vu ce qu'il y avait dans le ciel hier soir? Il y a des gens qui ont vu...
Ben oui, est arrivé Mme Parisien en disant qu'une comète. C'est pas une comète. C'est un météore.
Oui, ça a l'air.
Ouais. J'ai pas vu, là, parce que moi, je suis en centre-ville de Montréal, hein, fait qu'on voit pas très bien le ciel, puis surtout, il y a des nuages. Mais il faut savoir qu'à chaque jour, il y a des milliers de météores qui rentrent dans l'atmosphère terrestre. Les plus petits, c'est les étoiles filantes. Là, quand vous voyez une petite lumière pendant une fraction de seconde, ça, c'est une petite météorite qui est rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il y en a parfois des un peu plus gros, genre ballon de football, puis il y en a même des fois qui peuvent avoir de la grosseur d'une automobile. À ce moment-là, on le voit beaucoup plus. C'est probablement ça dont vous me parlez, mais évidemment, je ne l'ai pas vu hier, surtout qu'au centre-ville, on ne voit pas grand-chose.
On ne voit pas grand-chose. Merci beaucoup, Claude Lafleur.
Ben, ça fait plaisir. Bonjour, toute l'équipe.
Au revoir.
Salut.
Et si vous voulez vous sentir vieux, c'est vous répondez à Thérèse en disant j'ai eu un oncle, moi, qui conduisait ça à un météore. Là, vous êtes dans une autre époque. Êtes-vous d'accord avec ça?
Oh, oui.
D'accord à 100%.
Mon oncle avait ça à un météore.